Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Le Liban à la une de cette émission, avec Karim Émile Bitard, co-directeur de la dernière livraison d'Orient Stratégique, nous évoquerons les polycrises et les menaces existentielles qui traversent le pays du Cèdre. Et avec l'économiste Albert Daguerre, auteur d'un ouvrage remarquable sur la crise financière qui secoue le Liban, nous en examinerons les causes et les mécanismes et nous suivrons quelques pistes de sortie de crise qu'il propose. Deux entretiens mis en onde et réalisés par Mathias Golchani, à réécouter en podcast sur notre application Pure Radio, application à laquelle vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Bonjour Karim Émile Bitard.
Bonjour Éric Bataillon.
Dans ce numéro d'Orient Stratégique que vous avez coordonné avec Pierre Berthelot, vous soulignez que le Liban est victime d'une polycrise, autrement dit, une multitude de crises dans les domaines politiques, économiques et sociaux. En quoi la plus importante d'entre elles est-elle la crise de souveraineté, comme vous l'écrivez dans votre introduction ?
C'est un peu l'œuf et la poule. La plupart de ces crises sont extrêmement complexes. Chacune d'entre elles est une crise existentielle et menace la survie même du pays. Mais la plupart de ces crises ne peuvent pas être résolues, notamment la crise économique et financière, tant que la question de la souveraineté nationale n'aura pas été frontalement abordée. Car quand un pays est privé des principaux attributs de sa souveraineté, on a beau proposer d'ambitieuses réformes de restructuration bancaire, de restructuration de la dette, de réformes judiciaires, on va se heurter à ce qu'on appelle l'État profond, à ceux qui contrôlent les rouages de l'État, et notamment le Hezbollah, mais également d'autres puissances régionales qui ont tendance à interférer dans les affaires intérieures libanaises. Donc la priorité doit être de permettre à ce pays de recouvrer sa souveraineté nationale et de se distancier par rapport aux guerres des axes régionaux et aux conflits par procuration auxquels il a payé un très lourd tribut tout au long de son histoire.
Justement, quels sont les éléments de souveraineté qui manquent actuellement au Liban ?
Quasiment tous, pour être honnête. Nous sommes dans un pays où l'armée libanaise, bien qu'étant la seule institution transcommunautaire à laquelle les Libanais dans leur ensemble font encore confiance, cette armée se retrouve quelque peu impuissante face à la toute-puissance de groupes non étatiques, notamment le Hezbollah, qui au sud Liban est le maître du jeu. Et c'est des décisions du Hezbollah que va dépendre une éventuelle entrée en guerre du Liban. Certes, Israël menace quasi quotidiennement d'attaquer le Liban, mais à ce stade, l'Iran et le Hezbollah ont montré une certaine retenue. S'ils devaient décider demain, pour des raisons géostratégiques liées à leur rapport avec l'Iran, de provoquer Israël, immédiatement, le Liban serait confronté à une invasion israélienne dont il se remettrait très difficilement compte tenu de cette multiplicité de crises que nous avons évoquées.
Karim Émile Bitard, cette crise de souveraineté s'accompagne-t-elle d'une crise de régime ?
Tout à fait, cette crise de régime est présente depuis une trentaine d'années. Le système libanais est devenu complètement sclérosé, complètement incapable d'offrir des mécanismes de résolution des conflits politiques internes. Le Liban était initialement décrit comme une démocratie consociative, c'est-à-dire un système où par consensus entre les différentes communautés on parvenait à régler les litiges. Aujourd'hui, ce système est grippé. Cette démocratie consensuelle s'est transformée en oligarchie. On a un petit groupe de leaders communautaires qui forment une oligarchie, qui prennent les grandes décisions en coordination avec leurs parrains étrangers. Les uns sont soutenus par les Iraniens, d'autres par les Saoudiens, d'autres ont des relations étroites avec les Occidentaux. Mais en tout état de cause, la population n'a pas voix au chapitre et c'est une poignée de leaders communautaires qui lui ont transformé le Parlement libanais en chambre d'enregistrement. Les parlementaires libanais se sont montrés incapables d'élire un président de la République pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas encore de modus vivendi entre les grandes puissances. Donc la démocratie libanaise, qui a longtemps été présentée en modèle, était une façade, était une vitrine, et la réalité est celle d'un pouvoir qui est entre les mains d'une poignée de leaders communautaires, d'où la crise de régime et la nécessité de repenser la démocratie libanaise sur la base de la citoyenneté, de l'égalité des droits et des devoirs entre les citoyens, quelle que soit leur communauté de naissance.
La troisième strate de cette polycrise que vous décrivez dans ce numéro d'Orient stratégique, Karim Emil Bitar, c'est celle au plan économique et financier. Aurait-on pu l'éviter ?
Non seulement on aurait pu l'éviter, mais c'était un peu la chronique d'une crise annoncée. De très nombreux économistes experts du système bancaire avaient annoncé que cette pyramide de Ponzi était destinée à s'effondrer. On a laissé faire l'esprit du lucre des dirigeants libanais, de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, des actionnaires des principales banques, l'a emporté sur le sens de l'intérêt général. Nous sommes arrivés à une crise qui a dépossédé les Libanais de leurs dépôts bancaires, qui a appauvri un pays tout entier. Aujourd'hui, près de 80% des Libanais, selon les chiffres de l'ONU, souffrent de pauvreté multidimensionnelle. Et ce qui est encore plus criminel que cette crise économique, c'est l'absence de plan de sauvetage après cette crise, ou plutôt la façon dont l'establishment politico-financier a torpillé délibérément et systématiquement tous les plans de sauvetage qui ont pu être présentés par le Fonds monétaire international, par certains experts libanais, par la banque Lazare soutenue par le gouvernement français. Tous ces plans qui auraient pu préserver l'épargne de près de 98% de la population libanaise ont été torpillés par des intérêts privés et catégoriels qui ont toujours eu la haute main sur la vie politique libanaise.
Est-ce que ce sont ces crises dont nous venons de parler qui expliquent l'explosion populaire de mécontentement d'octobre 2019 ?
C'est en grande partie lié à cela. Il y a eu un ras-le-bol populaire. Cette immense mobilisation d'octobre 2019 avait des raisons économiques, sociales, politiques. Les Libanais, toutes communautés confondues, voulaient mettre à bas ce système oligarchique et kleptocratique. Ils rêvaient d'un nouveau contrat social. Là où les choses ont mal tourné, c'est qu'il y avait une colère commune, un ras-le-bol commun, mais il n'y avait pas de projet alternatif rassembleur. Il y avait une sorte de coalition de toutes les frustrations qui a mené à cette révolution inachevée d'octobre 2019, mais personne n'a réussi à transformer l'essai politiquement. On n'a pas pu à temps organiser une opposition politique structurée qui aurait pu véritablement affaiblir le régime en place.
Alors, dans ces conditions, comment le Liban peut-il s'en sortir ? Quelle piste votre dossier propose-t-il ?
Alors, ce dossier insiste sur la responsabilité des puissances internationales. Si le Liban a pu devenir également aujourd'hui un narco-État, en quelque sorte, ou est en voie de devenir un narco-État, c'est parce qu'on a laissé se développer en Syrie, en Irak et ailleurs une situation devenue véritablement intenable. Le Liban demeure la caisse de résonance des conflits régionaux. Il a payé un très lourd tribut. Depuis l'invasion anglo-américaine de l'Irak en 2003, on a assisté à une montée en puissance de l'Iran à l'échelle régionale qui est très significative. Et en réaction, l'Arabie saoudite s'efforce d'endiguer cette montée en puissance des acteurs non étatiques liés à l'Iran en soutenant d'autres acteurs politiques. Donc tant que ces guerres par procuration régionale n'auront pas été quelque peu endiguées, quelque peu limitées, tant que ce qui reste de la communauté internationale n'aura pas exigé le respect des résolutions internationales et assurer au Liban une certaine neutralité positive, c'est-à-dire insulariser le Liban de ses conflits régionaux, les Libanais à eux seuls se montreront probablement incapables de sortir du désastre politique et économique actuel. Donc il y a une responsabilité de la communauté internationale, il y a aussi des causes endogènes, les Libanais doivent avoir le courage d'affronter eux-mêmes la kleptocratie qui les gouverne depuis des décennies, de reconnaître que leurs problèmes ne viennent pas exclusivement de l'étranger, mais aussi de la corruption, de l'appât du gain, d'une volonté de leur propre classe politique de faire obstacle à toutes les réformes structurelles susceptibles de permettre à ce pays de se remettre sur pied.
Merci Karim Emil Bitar.
Merci Eric Bataillon, bonne soirée.
À lire ce numéro d'Orient stratégique que vous co-dirigez avec Pierre Berthelot, Liban, polycrise et menaces existentielles, publié aux éditions de l'Harmattan.
Orient Hebdo, Eric Bataillon.
Bonjour Albert Daguerre.
Bonjour Monsieur Bataillon.
Albert Daguerre, en quoi le renflouement des banques a-t-il détruit le Liban, comme vous l'expliquez dans le 11e chapitre de votre livre, publié aux éditions de l'Harmattan, dans la collection « L'esprit économique » et que vous rappelez opportunément dans l'avant-propos?
Oui, on a créé une crise bancaire. En asséchant les liquidités en dollars dont disposent les banques. Mais les banques refusent de déclarer faillite. Donc le gouverneur de la Banque centrale déclare 2 mois après l'éclatement de la crise, en novembre 2019, qu'il n'y aura pas de faillite bancaire. Et donc, qu'est-ce que la Banque centrale a voulu dire par cela? Elle a décidé de renflouer les banques. Et sa décision de renflouer les banques transforme la crise bancaire en crise de change. Sa décision donne lieu à des émissions massives de liquidités en livres libanaises pour permettre aux banques de répondre aux demandes des clients qui veulent récupérer leurs dépôts, mais en leur payant des livres libanaises à la place des dollars qu'ils avaient. L'objectif était de réduire ou de supprimer les montants en dollars que les banques doivent rendre aux déposants. Le gouverneur de la Banque centrale commence donc cette démarche en éditant une circulaire, la célèbre circulaire 151, en avril 2020, c'est-à-dire 6 mois après le déclenchement de la crise. Elle fixe un cours du dollar pour les montants que les déposants veulent récupérer auprès de leur banque à 3 900 à la place de 1 500. Et donc, la Banque centrale avait débuté cette démarche de renflouement avant même la publication par le premier cabinet d'après le soulèvement, qui est celui de Hassan Diab, de son programme gouvernemental qui s'inspire donc des programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Qu'est-ce que le gouverneur fait? Il a imprimé entre avril 2020 et avril 2023 15 fois le montant existant de livres libanais d'avant la crise. 15 fois. Et cette masse énorme de liquidités en livres libanais va permettre d'acheter 1 dollar dont le cours ne cesse de monter. Donc autrement dit, cette masse de monnaie va permettre, par la hausse des prix qu'elle rend possible, de créer une hyperinflation, laquelle réduit le pouvoir d'achat des revenus en livres libanais. Et ça, jusqu'aux limites de la famine. Avant de partir, le gouverneur Salamé, en juillet 2023, il s'arrange pour porter le cours du dollar jusqu'à 100 000 livres. Vous savez, le cours du dollar était à 1 500 avant la crise. Donc il est multiplié par 65 fois. Et donc cela a l'effet magique de quoi faire. Pourquoi il fait cela? Cela a l'effet de réduire la dette de la Banque centrale envers les banques commerciales de 80 milliards de dollars à 1,3 milliard de dollars. Autrement dit, le gouverneur de la Banque centrale a supprimé presque la dette qu'il a envers les banques. Mais aussi, les banques commerciales ne pouvaient pas restituer l'argent des déposants. Donc aussi, on a supprimé par la même occasion les dépôts que ces banques ne pouvaient plus restituer à leurs propriétaires. Bon, le résultat de tout cela, c'est quoi? C'est qu'entre-temps, les prix ont augmenté de 55 fois entre l'automne 2019 et l'automne 2023. Alors que les traitements dans le secteur public n'ont augmenté que de 7 fois. Ça signifie quoi? 80% des Libanais résidents sont bien en dessous du seuil de pauvreté.
Albert Daguerre, l'essentiel de l'action de Riyad Salamé, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, a été de protéger les institutions bancaires au détriment des Libanais eux-mêmes.
Absolument. Ce qui est certain, c'est que l'engagement de Salamé est d'abord et avant tout en faveur des banques et de leurs intérêts. Tout ce qu'il a entrepris, et en particulier le fait de hausser le cours du dollar, avait pour objectif d'empêcher les banques de déclarer faillite. C'est lui qui a renfloué les banques, c'est lui qui a empêché les banques de déclarer faillite en supprimant leurs dettes envers leurs déposants. Il a supprimé les dettes des banques envers leurs déposants. C'est ça l'œuvre de Riyad Salamé.
La dévaluation de la livre libanaise est-elle liée au déficit structurel de la balance des paiements?
Oui, effectivement. C'est le prétexte fourni par le FMI dans son rapport de février 2018. Pour dire que le Liban ne peut plus maintenir la fixité de son taux de change. Il y a une mission annuelle qui vient au Liban, comme partout dans le monde, du FMI. Et le 11 février 2018, elle a publié un texte en disant « Le Liban ne peut plus maintenir la fixité de son taux de change ». Pourquoi elle a fait cela? Je vais expliquer. De 1948 jusqu'à 2011, c'est-à-dire en 60 ans, le Liban n'a expérimenté que des excédents de sa balance de paiement. Mais depuis 2011, ou durant les années 2011-2019, on a assisté à un déficit persistant de la balance des paiements libanaise. Ce qui a donné un prétexte d'abord au Fonds monétaire international de publier ce rapport qui est le point de départ de la crise. Et cela a donné un prétexte aussi aux agences de notation, Fitch, etc., pour dégrader la notation ou le classement du Liban, lequel avait été accusé en 2019 de ne pas pouvoir payer les intérêts de sa dette externe et donc nécessairement de s'acheminer vers un défaut de paiement. Donc effectivement, le déficit de la balance des paiements est très important dans la décision du Fonds monétaire international de dire que le Liban ne peut plus maintenir la fixité de son taux de change.
Dans ces conditions, Albert Daguerre, comment sortir de la crise financière actuelle ?
C'est une très très bonne question. Vous savez, moi, personnellement, 2 mois après le soulèvement du 17 octobre 2019, j'avais publié un texte dont le titre dit qu'il est un programme mis à la disposition des participants au soulèvement. Mais ce programme aurait pu être celui du cabinet nouveau qui allait être constitué par, justement, Hassan Diab. Et l'essence de ce qu'il disait est qu'il faut tourner le dos à la crise financière en cours. Et comment ? C'est fixer son attention sur la mise en œuvre d'un programme alternatif d'investissement. Cela à travers un budget public d'investissement qu'il faut mettre en exécution et sur le champ. Des tâches immédiates en termes d'investissement dans les infrastructures et surtout dans le soutien à l'investissement dans la production de biens technologiques. Donc, pour être plus précis sur comment sortir de la crise, il y a 3 niveaux. Il faut d'abord stabiliser le taux de change. Comment ? En revenant au régime de fixité du taux de change, avec comme objectif de rétablir un niveau de vie décent pour les Libanais. C'est ça le problème au Liban, que les gens sont jetés bien en deçà du seuil de pauvreté dans la grande majorité de la population. Et donc, en ayant fixé dans un premier temps le taux de change, il peut y avoir par la suite des ajustements de salaire à la hausse donc, qui doivent suivre. On ne peut faire cela qu'à la faveur de la création d'un dispositif administratif nouveau qui dispose d'une grande autorité qui est l'organisme de contrôle de change. Donc le Liban doit créer un organisme de contrôle de change. Quel est le rôle de cet organisme ? C'est de définir les priorités pour les importations. On ne peut pas tout importer. En 2022, le Liban a importé 2 montants égaux à ce qu'il importait avant la crise. C'est incroyable. Et donc, il définit des priorités pour les importations et il fait un rationnement des devises et de leur usage. C'est quoi l'objectif ? Maintenir l'offre et l'équilibre entre offre et demande de devises. Et justement, c'est la voie par laquelle on peut stabiliser le taux de change. Le 3e point le plus important du programme alternatif est d'établir un budget public d'investissement. Quel est le rôle de ce budget ? C'est de planifier et d'exécuter des dépenses dans les infrastructures et surtout dans la production de biens technologiques. Donc, encore une fois, on ne peut pas stabiliser le taux de change au Liban qu'en rétablissant la capacité de production du pays.
Il faut donc que le pays produise à nouveau alors que c'est quelque chose qu'il avait perdu au fil des années.
Totalement, absolument.
Alors qu'est-ce que ces 3 points impliquent pour les institutions et pour la société libanaise, Albert Daguerre ?
Moi, j'ai évoqué la question de la création du dispositif administratif nouveau, qui est l'organisme de contrôle de change, pour dire qu'on ne peut pas maintenir le Liban en vie sans créer des dispositifs au pluriel, administratifs nouveaux. Il faut créer des institutions publiques nouvelles. Il faut reformer l'administration publique pour qu'elle puisse assumer des tâches développementales nouvelles, ce qui n'est pas du tout son cas dans l'état actuel des choses, n'est-ce pas ? Il y a un vide administratif tel que parler d'État libanais, c'est un peu de la foutaise, excusez-moi. Mais cette réforme ne peut pas avoir lieu tant que des partis politiques nouveaux n'ont pas poussé ou appuyé en sa faveur jusqu'à l'imposer. Donc, je dis qu'en termes d'institutions et de société libanaise, il faut qu'il y ait des partis politiques nouveaux, n'est-ce pas, qui poussent ou qui appuient en faveur de la réforme pour qu'elle puisse avoir lieu. Autrement dit, maintenir le Liban en vie nécessite de passer par un grand changement politique.
Merci Albert Daguerre.
Merci beaucoup Monsieur Bataillon.
À lire votre ouvrage passionnant et explicite sur la crise financière au Liban, publié aux éditions de l'Harmattan dans la collection L'Esprit économique, série Le Monde en question.